le servir et lui plaire avec nos vies. La vie ne nous rend pas toujours les résultats encourageants de nos attentes et de nos efforts. La vie ne nous donne pas toujours selon ce qu'on s'attendait à elle. J'aurais aimé ça, pouvoir travailler le jardin, j'imagine, à la fin d'avril, mais peut-être que ça va aller à la fin juillet, je ne sais pas. On n'a pas exactement toujours ce qu'on s'attend. Peut-être que tu t'es bien préparé pour le travail en étudiant, en ayant de la formation, mais le travail que tu fais maintenant, tu n'es pas toujours très reconnu à ta juste valeur, puis tu dis « ben, je suis déçu ». Peut-être que tu planifiais une vie conjugale puis familiale idéale, mais les résultats que tu expérimentes au quotidien ne sont pas à la hauteur de tes attentes et tu es déçu. Peut-être que tu marches fidèlement avec Dieu puis que tu n'obtiens pas ce que ton cœur désire, puis cela étouffe ta passion pour Dieu et ta déception augmente. Cette semaine, je lisais le livre de Job. Et ça me montrait que Job aussi marchait fidèlement avec Dieu. Puis en un instant, son monde a chaviré et il n'a pas obtenu ce qu'il s'attendait de Dieu. Et il confesse à Dieu fortement sa déception. Cette semaine, en méditant l'évangile de Luc, je méditais sur la vie de ses premiers disciples de Jésus après la crucifixion de leur maître. Puis je pouvais commencer à sentir leur profonde déception, que leurs espérances s'évanouissaient. Jésus avait été crucifié. Il avait été placé dans la tombe. Ça faisait 3 jours. Il n'avait rien entendu. Je pouvais comprendre un peu l'incrédulité de Thomas devant le message incroyable de la résurrection de Jésus. Moi, je ne suis pas sûr de croire à ça tant que je ne mets pas ma main dans les trous et dans son côté. Je pouvais comprendre aussi l'apôtre Pierre. Je peux comprendre qu'il ait pensé sérieusement retourner à son métier de pêcheur. De pêcheur. Avant que Jésus le rencontre à nouveau. Il le rebranche. Je peux aussi comprendre la déception ce matin qu'on va voir dans Luc chapitre 24 de 2 disciples. Qui, le dimanche après-midi, s'en retournaient chez eux. Ils s'en retournaient à Emmaüs, 10 kilomètres, après la Pâque, après avoir été un disciple de Jésus, après avoir vu son maître crucifié, mis à mort, flagellé, mis au tombeau. Le jour de la résurrection de Jésus, Jésus a dû ramasser ses disciples à petite cuillère. Ils étaient désappointés, déçus. Mais Jésus, avant de les envoyer proclamer le message de la résurrection, il a pris du temps avec eux. Il a pris du temps pour se faire reconnaître par ses disciples. Et ma question ce matin, c'est comment est-ce qu'il a pu faire ça? Comment est-ce qu'il a pu relever ses disciples de leur profonde déception? Comment est-ce qu'il a pu les relancer avec assurance dans la proclamation qu'ils vont faire de la résurrection? Et s'il a réussi à faire ça avec les disciples d'Emmaüs, comment est-ce qu'il peut le faire avec nous aussi? Comment est-ce qu'il peut nous relever de nos déceptions pour nous relancer dans la vie avec l'assurance que Jésus, il est vivant? Jésus, il est ressuscité, que la puissance de la résurrection habite en nous et que ce Jésus vivant et ressuscité marche avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La même manière que Jésus a relevé les disciples d'Emmaüs, j'aimerais qu'on y apprenne et qu'il puisse nous relever aussi de nos propres déceptions. Dans Luc 24, les versets 13 à 35, ce matin, on va examiner comment Jésus a aidé ces 2 disciples-là à restaurer leur vision de Jésus ressuscité, puis à ranimer la flamme de leur passion pour lui. Et c'est ma prière qu'à travers cette belle histoire, je lis cette histoire-là, puis Dieu a utilisé ce texte-là dans ma vie à plusieurs occasions pour me faire du bien. Qu'à travers cette belle histoire, on puisse reconnaître des obstacles à notre vision de Jésus ressuscité et aussi utiliser les outils que Jésus va nous donner pour reconnaître que Jésus il est réellement ressuscité et qu'il nous envoie partager son message de résurrection, de vie. Vous avez trouvé Luc chapitre 24? On va lire du verset 13 à 35. Mais d'abord, on va demander la grâce de Dieu. Ah, Seigneur, encore une fois, on ouvre ta parole et on aimerait se placer dans ce contexte des premiers disciples qui n'avaient pas été rassurés quant à la résurrection, quant à ta résurrection, Seigneur Jésus. Et ils étaient désappointés, attristés, déçus. Seigneur, tu as su passer du temps avec eux et tu as su ranimer leurs espérances, ranimer leur flamme pour toi. Seigneur, nous aussi, on vit dans toutes sortes de déceptions, puis je veux te prier que ce matin, à travers ta parole, tu t'approches de nous à nouveau et tu ranimes nos espoirs, tu ranimes notre flamme, notre passion pour toi, de sorte que nous puissions quitter, sachant que tu es ressuscité, tu habites en nous. Et Seigneur, tu nous envoies proclamer le message de la vie éternelle en Jésus-Christ. On te demande ces choses au précieux nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. C'est le jour de la résurrection. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'y était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? »« Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Une belle histoire. Le jour de la résurrection, le sépulcre est vide. Et Jésus ressuscité voit deux disciples qui s'entretiennent, qui discutent de leur profonde déception en ce qui concerne la fin de semaine qu'ils ont passée à Jérusalem. Jésus les voit, les ressuscité, il y a un corps glorifié, et il s'approche d'eux autres, puis il se met en marche avec eux. Et la Bible dit que les yeux des disciples sont incapables de le reconnaître. Ça, c'est la version de la Bible du Semeur du verset 15. quelque chose ou quelqu'un empêchait les yeux des disciples de reconnaître Jésus. Et si je prenais le mot grec qui est là, il est à l'imparfait, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui constamment était là, qui était là continuellement, qui les empêchait de voir, qui les retenait, qui les bloquait. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qui bloquait leurs yeux comme ça? Bon, la majorité des commentaires, ils me disent que c'est Dieu qui bloquait leurs yeux. Mais j'ai de la misère avec ça. Ça m'étonne dans un sens parce que le Seigneur, dans son cœur, il cherche toujours à se dévoiler aux yeux de ses disciples plutôt qu'à se cacher. C'est peut-être Dieu qui leur voilait les yeux. Je pense qu'une réponse meilleure serait l'apparence de Jésus. L'apparence de Jésus avait changé depuis la croix. Et si on tournait dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 12, c'est écrit « Il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. » Évidemment, il parlait des deux disciples d'Emmaüs. Il apparut sous une autre forme. L'apparence de Jésus avait changé. Alors, je m'imagine que si les dernières images des disciples d'Emmaüs étaient de voir un Jésus avec une couronne d'épines, ensanglanté, meurtri par la flagellation, percé sur le côté, à moitié nu sur une croix, et que là, il voit un Jésus propre, revigoré, avec des vêtements, le visage puis le corps qui n'est pas défait par les coups ou bien par la couronne. Je peux m'imaginer que les disciples ne s'attendent pas à le reconnaître. Il a l'air bien différent. Et d'ailleurs, il pouvait ressembler des disciples qui ont la tête basse puis qui s'en vont découragés. Ce Jésus pouvait ressembler à bien d'autres visiteurs qui étaient venus pour la Pâque, pour la célébration de la Pâque, puis qui retournaient à la maison. Et alors, il était un visiteur parmi tant d'autres, puis on n'essayait pas nécessairement de savoir qui c'était, puis de quelle famille, puis de quelle tribu il était. Jésus s'est approché, puis a marché avec eux. Et les disciples ne l'ont pas reconnu. Je pense qu'il y a une autre raison particulière aussi pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu parce que, à cause de leur propre déception, ils ne s'attendaient jamais, ils n'espéraient plus voir Jésus. Ils ne s'attendaient plus à rencontrer Jésus sous une forme ou sous une autre. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qui avait fermé les yeux de leur cœur? Qu'est-ce qui avait fermé les yeux de leur compréhension, les yeux de leur foi à ces disciples-là? Et ce qui fermait les yeux des disciples, ce sont les mêmes qui ferment nos yeux souvent, de sorte qu'on ne voit pas Jésus ressuscité. Premièrement, c'était les circonstances. Les circonstances attristantes de cette fin de semaine-là avaient fermé les yeux des disciples. Ils se promenaient la tête basse. Ils avaient les yeux dans l'eau. Bien, Jésus dit, il s'arrêta, il avait l'air attristé. Il avait peut-être de l'eau dans les yeux aussi. Mais Jésus les rencontre et ils ont la mine basse, ils ont l'air attristés. Les circonstances pénibles de l'arrestation, du procès, de la crucifixion, de la flagellation avaient atterré, mis à terre les disciples. Et ces circonstances fermaient leurs yeux. Leur maître bien-aimé avait été livré, il l'avait vu, avait été condamné, avait été mis à mort. Des circonstances attristantes. Des désappointements de personnes aussi. Le texte nous mentionne que les disciples ont dit nos autorités nous ont vraiment désappointés. Les autorités religieuses, nos autorités religieuses n'ont pas cru en Jésus. Puis les autorités romaines n'ont pas protégé Jésus non plus. Et même les disciples, ils ont tous sacré le camp, ils sont tous sauvés, ils ont tous fui. Verset 20, c'est ce qu'il demande. Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Et tout le monde est parti. Il n'y a pas un disciple qui est resté debout et qui a eu le courage de s'élever contre l'injustice flagrante qui était faite à Jésus. Ils se sont tous sauvés. Ils n'étaient pas fiers d'eux autres. Ils étaient désappointés. Les personnes les avaient désappointés. Et je peux même comprendre que Jésus les avait désappointés. Si je regarde le verset 21, il dit « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Mais avec tout ça, ça fait 3 jours qu'il est parti, puis qu'il est mort, puis on n'a pas de nouvelles. Même Jésus, dans un certain sens, les avait désappointés. Parce qu'ils avaient reconnu dans Jésus un puissant prophète. Et ils s'étaient approchés de lui. Et ils avaient espéré, comme il mentionne, que c'est ce Jésus qui délivrerait Israël. Que c'est ce Jésus qui enlèverait le mal, puis qui apporterait la paix à Jérusalem. Qui établirait le royaume juif promis dans l'Ancien Testament à la descendance de David. Mais ces attentes qu'ils avaient, Jésus les avait désappointées. Il n'avait pas été à la hauteur des attentes. Il avait été vaincu. Rome et les autorités religieuses l'avaient rejeté. Ouais, il y avait des circonstances attristantes qui les empêchaient de voir Jésus ressuscité. Il y avait des désappointements de personnes qui les empêchaient de voir Jésus ressuscité. Et il y avait aussi les visions du cœur qu'ils avaient perdues. Qui l'empêchait de voir Jésus ressuscité, parce qu'ils étaient, ils s'étaient laissés envahir par la déception, par l'échec de leur espoir qu'ils avaient placé en Jésus. Les disciples avaient baissé la tête, ils avaient fermé les yeux de leur cœur, ils avaient perdu leur vision. Vois-tu, un jour, ils s'étaient attachés à Jésus. Peut-être ça faisait 3 ans pour ces 2 disciples. Ça faisait 3 ans que Jésus parcourait la Palestine et prêchait le royaume de Dieu, puis ils s'étaient attachés. Mais là, ils l'avaient vu vaincu et ils avaient perdu espoir. Ils avaient perdu la vision de leur cœur. Et même ce dimanche matin, à l'annonce surprenante des femmes qui avaient été au tombeau, qui avaient vu que le tombeau était vide, qui avaient même été rencontrées par des anges qui avaient dit « Jésus est vivant », même dans cette annonce-là, ils n'ont pas cru les femmes. Et même, il y a des disciples, la Bible dit, comme il nous a mentionné, qui après l'annonce des femmes, ils ont été au tombeau, puis ils ont vu que c'était exactement comme les femmes l'avaient dit. Puis ils n'ont pas cru plus. Ils avaient perdu la vision. Ils avaient perdu la vision. Ils n'avaient pas revu. Lui, il mentionne, ils ne l'ont point vu. 3 jours après. Les plans, les aspirations des disciples n'avaient pas porté le fruit escompté. Les disciples étaient découragés, désappointés, tristes, profondément déçus. Ils avaient lancé la serviette et étaient prêts à tout abandonner lorsque Jésus s'approche d'eux et les rencontre personnellement. Et cette semaine, je me demandais, est-ce qu'on est vraiment différent? Est-ce qu'on est vraiment différent lorsque nos plans semblent stériles? Lorsque on est désappointé des gens? Lorsque les circonstances ne sont pas les meilleures? Lorsque nous, on est en train de perdre la vision de qui est Jésus, puis qu'est-ce qu'il veut faire dans notre vie, est-ce qu'on est bien différent? Est-ce qu'on n'est pas souvent découragé, désappointé, puis on est prêt à lancer la serviette? Mais j'aime ça parce qu'à ce moment-là, Jésus ne nous abandonne pas, il vient proche. Et comme pour les disciples d'Emmaüs, Jésus va s'approcher de nous, puis il va commencer à faire route avec nous pour être capable de restaurer notre vision. Pour nous être capable de nous faire reconnaître à nouveau qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il est avec nous. Mais comment est-ce qu'il va s'y prendre? C'est un peu ce qu'il nous mentionne à partir des versets 25 à 35, les outils de la vision renouvelée des disciples. En s'approchant d'abord Jésus, des disciples, Jésus, il ne s'impose pas, il est ressuscité, il aurait pu arriver avec toute la gloire encore. Mais ce n'est pas comme ça qu'il travaille avec nous. Il vient proche. Il se montre un ami. Il se montre un conseiller qui fait route avec eux. Qui prend le temps de poser des questions. Ah oui, c'est quoi ce qui vous désappointe? Qu'est-ce qui est vraiment... C'est Jésus qui demande. Qu'est-ce qui est arrivé donc à Jérusalem la dernière journée? Ça m'étonne. C'est lui qui était le centre de toutes ces activités-là. Puis, innocemment, il demande aux disciples, partage-moi ta peine. Partage-moi qu'est-ce qui est arrivé. Il prend le temps de compatir avec leurs craintes, avec leur désarroi. Jésus répond à leurs questions. Il éclaire leur compréhension spirituelle, puis il les amène à ouvrir grand leurs yeux pour qu'ils reconnaissent qu'il est ressuscité. Et comment il fait ça? Bien, Jésus d'abord leur rappelle le fondement solide des Écritures. Si je veux garder ma passion et ma vision, j'ai besoin de me rappeler la vérité des Écritures. Jésus leur offre une vision renouvelée des Écritures. Jésus ramène les disciples à l'autorité des Écritures. Oh, vous voyez au verset 25, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, Fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Qu'il entre dans sa gloire? Les prophètes l'ont mentionné, ça. Jésus l'avait mentionné, ça. Rappelle-toi le fondement des Écritures. Les circonstances peuvent être trompeuses, les gens peuvent être trompeurs, mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est le fondement de ce que je crois, de ma foi et de ma vision. Regardez le chapitre 9, le verset 22. Jésus lui-même, bien avant sa crucifixion, avait annoncé ces événements. Luc 9, 22. Ça dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Déjà, Jésus leur avait dit dans le passé. Regardez le message des anges dans le chapitre 24, les versets 7 et 8. Quand les anges ont vu les dames, ils ont dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Et au verset 7, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Les dames se souvenaient que Jésus leur avait dit ça. Le fondement de leur foi était basé sur la parole de Dieu, sur la parole de Jésus. Jésus rétablit la vision des disciples en leur rappelant le fondement solide des Écritures, en leur rappelant que la croix précédait la gloire. Et ça, c'était enseigné. Jésus leur donne des outils pour une vision renouvelée dans le fait aussi qu'il va offrir une compagnie prolongée. Quand je suis dans le désappointement, Jésus s'invite chez moi. Jésus s'invite à marcher avec moi. Et au moment où il m'a expliqué les Écritures, puis il est prêt à partir, les disciples d'Emmaüs se disent, non, pars pas. Reste avec nous, on a tellement de bon temps à regarder les Écritures ensemble, mais c'est ça qu'ils vont dire à la fin, notre cœur ne brûlait-il pas quand ils nous ouvraient les Écritures? Toutes les Écritures nous mentionnent. Reste donc avec nous autres, reste à souper avec nous autres. Et Jésus, dans des disciples désappointés, il est prêt à leur offrir sa compagnie prolongée. Reste avec nous. Et voyez-vous, si c'est des moments dans votre vie où c'est difficile, où il y a de la déception, sachez que Jésus est prêt, lui, à passer un temps prolongé avec vous. Vous pouvez lui dire, « Reste avec moi, Seigneur. Prends le temps avec moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de m'appuyer sur toi. » Jésus refuse jamais de prendre du temps avec ses disciples. Pas plus les disciples d'Emmaüs qu'avec nous-mêmes. Il est disponible. Il allonge sa présence avec les disciples d'Emmaüs. Et encore une fois, pendant qu'il rallonge ce temps avec eux, il leur rappelle la raison de sa venue, la raison de sa mort. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Il mange. Et pendant qu'il mange, Jésus est dans la maison d'un hôte. Mais c'est lui qui prend la position de hôte. C'est lui, la Bible dit ici, verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. C'est Jésus qui prend le pain, qui est le hôte, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Ça semble-tu à quelque chose, ça, quand vous lisez ces phrases-là? Jésus avait déjà fait ça dans le passé. Il avait déjà fait ça déjà dans le chapitre 9, quand il avait multiplié les pains. Il avait pris les 5 pains, les 2 poissons du jeune homme, puis il l'avait pris. Il avait rendu grâce, il avait rompu, puis il avait donné. Les disciples pouvaient voir dans ce geste-là l'image de cette multiplication des pains. Ils étaient des disciples probablement depuis un bon bout de temps, et Jésus leur avait dit, « J'ai moi le pain de vie. » Il leur avait dit, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Les disciples pouvaient voir le ministère de Jésus à travers cette fraction du pain. Et il ne faisait pas partie des 12 apôtres, bien entendu, alors je ne peux pas dire qu'il se rappelait de la scène que Jésus venait de faire. Mais certainement, les premiers lecteurs comme nous aujourd'hui qu'on lit ce passage-là, on dit, « Hey, Jésus est en train de leur remontrer pourquoi il était venu. Il était venu pour donner sa vie, pour la rédemption du monde. » Jésus rappelle sa multiplication, mais il rappelle aussi le mémorial de sa passion, le symbole qu'ils vont partager la table du Seigneur. Et la Bible dit que c'est à ce moment-là, lorsqu'il rompit le pain et qu'il leur donnait, que leurs yeux se sont ouverts complètement. Le texte grec encore ajoute un préfixe pour dire « ils se sont ouverts, mais ils se sont ouverts complètement ». Ils ont vu vraiment, à ce moment-là, que c'était Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont vu vraiment? Ils ont vu vraiment dans le fait qu'il rompait le pain, le ministère de Jésus, de sa croix aussi. Peut-être qu'ils ont vu en plus les marques dans ses mains, puis ils ont dit « hey, c'est Jésus ». Les yeux de leur foi s'ouvrirent et ils ont réalisé à ce moment-là comment leur cœur brûlait dans la présence du Seigneur. Et c'est ça qu'ils ont reconnu comme étant Jésus en sa présence, avec sa parole. Mon cœur brûle à nouveau. Et quand ils ont eu cette certitude-là de la présence de Jésus, Jésus est parti. Jésus n'avait pas besoin d'être présent physiquement avec eux. Il serait avec eux de façon différente, à travers son esprit dans le futur, à travers sa parole. Il est parti. Sa présence maintenant se manifeste de manière différente, selon sa parole encore, selon ses promesses qui sont certaines. Les disciples n'ont plus besoin de marcher par la vue, à toucher puis à s'accrocher au corps de Jésus. Ils peuvent marcher désormais par la foi, ayant la certitude que Jésus est réellement ressuscité. Et à travers ce geste de fraction du pain, de manger, de renouveler la raison de sa venue, de sa mort, les disciples ont eu une foi, une vision, une passion renouvelée. Et on les voit tout de suite une fois qu'ils sont partis au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Hey, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous expliquaient les Écritures? » Leur passion est renouvelée, leur joie est renouvelée et leur enthousiasme est renouvelé. Ils n'ont pas dit « Demain matin, on se lève de bonne heure puis on s'en va à Jérusalem. » C'était déjà le soir, il faisait déjà sombre et ils se lèvent puis ils refont encore les 10-12 kilomètres pour retourner à Jérusalem, pour rencontrer les apôtres et les disciples qui sont assemblés avec eux puis leur dire « Hey, c'est vrai cette affaire-là! » Jésus est réellement ressuscité. Et les autres disciples, de ce que je peux lire de Marc chapitre 16, verset 13, les autres disciples vont être à leur tour des sceptiques. Marc dit, « Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. » Jésus a rencontré personnellement les dames près du tombeau, ils ont ranimé leur passion. Jésus rencontre personnellement ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et renouvelle leur passion. Jésus va revenir rencontrer les 11 et les 10 plutôt, parce que Thomas ne sera pas là, puis il va renouveler leur passion. Ensuite, il va venir rencontrer personnellement Thomas, puis il va renouveler sa passion. Plus tard, il va rencontrer personnellement Pierre, sur le bord du lac de Galilée, puis il va restaurer sa passion. Et plus tard, à la Pentecôte, à l'Ascension, il va rassembler un autre groupe de personnes, puis il va leur redonner la passion par sa présence. Jésus a pris des disciples désappointés et les a laissés passionnés. Comment il l'a fait? Dieu nous appelle la même chose. Dieu voudrait faire la même chose avec nous. Il nous appelle de passer de la déception à la proclamation. Dieu nous appelle à reconnaître qu'il est réellement ressuscité, qu'il intercède pour nous, que ses promesses sont véritables, que son esprit vit en nous. Et là, notre vie va devenir une vie de proclamation de sa présence puis de sa grâce, plutôt qu'une vie de découragement devant les circonstances difficiles de la vie ou de déception devant les gens qui n'agissent pas selon nos attentes. Et pour Jésus comme pour nous, pour les premiers disciples comme pour nous, comment est-ce que je peux retrouver cette passion d'un Jésus ressuscité? Mais d'abord, c'est de regarder à lui. Il faut regarder à Jésus plutôt qu'aux obstacles, plutôt qu'aux circonstances, plutôt qu'aux gens qui nous désappointent. Il faut regarder à Jésus. Il faut inviter Jésus à rester près de nous, à rester avec nous. Il faut insister dans notre vie sur la communion avec Jésus, la communion avec les croyants. Comme croyants, on prend pas assez de temps à communier avec Jésus. Nos yeux sont seulement fixés sur les circonstances qui vont mal, puis sur les gens qui nous désappointent. Et on se met à baisser la tête, puis on perd la passion parce qu'on n'a pas pris de temps avec Jésus. C'est ce que Jésus veut faire en premier. Il veut qu'on regarde à lui, qu'on passe du temps avec lui. Jésus veut aussi qu'on médite les Écritures. Quand il était avec les disciples, c'est les Écritures qu'il a présentées encore. Nourrissons-nous des promesses de Dieu. Je lisais cette semaine Éphésiens chapitre 1, les versets 18 à 20, un beau texte où Paul prie que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que notre cœur se mette à brûler en comprenant l'espérance qui nous est garantie, en comprenant la puissance qui nous habite, en comprenant la résurrection qui agit puissamment en nous. On a besoin de méditer les Écritures pour renouveler notre passion. On a besoin aussi de se rappeler l'œuvre de Jésus à la croix. C'est pour ça que Jésus nous a laissé le mémorial de la table du Seigneur qu'on va partager encore ce matin. Il va dire de nous rappeler de sa victoire, de nous rappeler de son incarnation, de nous rappeler de sa rédemption et de nous rappeler qu'on a à partager cette coupe et ce pain jusqu'à ce qu'il revienne, parce qu'il va revenir bientôt nous prendre. On a besoin de se rappeler l'œuvre de la croix. Puis on a besoin aussi de pratiquer, comme ses disciples renouvelés, de pratiquer, de proclamer notre foi. Comment est-ce qu'on la proclame, notre foi? On la proclame d'abord par l'adoration entre croyants. C'est ça que vous faites ce matin en venant à l'Église, en proclamant votre foi, en adorant Dieu. On a besoin de pratiquer ça. On a besoin, à travers notre enthousiasme quotidien, de pratiquer la présence de Jésus avec nous. J'ai besoin de penser à ça jour après jour, dans toutes les situations quotidiennes. Jésus est avec moi. Ça proclame ma foi. Seigneur, tu es avec moi dans tout ce qui m'arrive. Et aussi par notre témoignage verbal à ceux qui nous entourent et qui n'ont pas encore vu de façon adéquate Jésus. Jésus aimerait se manifester à travers nous. Oh, c'est un beau texte, celui des disciples d'Emmaüs. Comment Jésus a pris une gang d'eux découragés en tout début, et à la fin, on les voit passionnés à nouveau. Que Jésus nous aide à renouveler nos yeux, à réouvrir nos yeux à travers sa présence, à travers sa parole, à travers l'adoration que nous avons le suivi, la proclamation de qui il est. Oh Seigneur Dieu, merci. Merci encore pour ta parole, merci pour ta présence. Merci pour la joie que tu plaçais dans mon cœur cette semaine à voir ces deux disciples passer du découragement à la passion pour toi. Et Seigneur, comme j'ai besoin d'être nourri de cette même vérité, comme j'ai besoin d'être nourri de ta présence dans ma vie, des promesses de ta parole, du mémorial de ta rédemption, du prix que tu as payé pour me racheter, et de la joie de pouvoir me lever et de proclamer ton nom de différentes manières, avec mes frères d'abord, mes frères et sœurs, comme envers un monde qui ne te voit pas encore. Seigneur, merci. Merci d'être venu proche de nous. Merci de ne pas nous laisser dans notre découragement. Mais du haut du ciel, tu as vu les disciples d'Emmaüs, puis tu nous vois aussi. Et tu te mets en marche. Tu viens avec nous. Puis tu nous dis, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Explique-moi. Merci Seigneur d'être ce Dieu proche de chacun de nous. Sois loué. Bénis ton peuple. Encourage-le. Fortifie-le par ta présence et ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.